Dans le Dvar Malchut, sur la parashat Roukat, le rabbi rapporte le compte même de, selon le calendrier hébraïque. C'est-à-dire que dans le calendrier hébraïque, on associe deux dates, la date du jour, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, suivant les jours de la semaine, et la date du mois, quel jour du mois. Donc en ce moment, on est dans le mois de Tammuz, et ce Shabbat-là, le Shabbat qui arrive, il tombe exactement le 10 du mois de Tammuz. Alors le rabbi explique que le Shabbat, c'est le septième jour de la semaine, et le chiffre 10, le 10 du mois de Tammuz, il correspond au compte du mois. C'est-à-dire qu'on associe deux dates, la date selon le cycle du soleil, ce sont les jours de la semaine, et la date selon le cycle de la lune, ce sont les jours du mois. Alors ce Shabbat-là, il revêt une importance particulière, puisque c'est l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Et le chiffre 7, donc le rabbi va expliquer, suivant la course du soleil, ça correspond à la nature elle-même, au cycle naturel des choses. Quand Dieu il a créé les mondes, alors il y a eu un soir, il y a eu un matin, Yom Echad, un jour. Puis quand le soleil se couche, on passe à un autre jour, au Yom Sheni. Et quand le soleil se lève, on poursuit ce jour jusqu'au coucher du soleil. Comme ça, on arrive à compter les jours de la semaine. Donc on voit que les 7 jours de la semaine, ils correspondent au cycle naturel des choses. Alors que la lune elle-même, et ça le Dvar Malchut l'a expliqué, le rabbi l'a expliqué longuement dans un Dvar Malchut précédent, il expliquait que la lune c'est lié avec le Chidush, Rosh Chodesh, c'est l'apparition de la lune dans le ciel. Et le mot Chodesh, il est apparenté au mot Chidush, la naissance de la lune, la naissance d'un point dans le ciel, la naissance de la lune. Le rabbi a expliqué que ça correspond même à l'éveil, quand un juif il s'éveille le matin et qu'il ouvre les yeux, donc c'est relatif à l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, avant même qu'il dise Modéani, l'essence de l'âme précède le dévoilement de Modéani. C'est juste l'apparition d'un point, à l'exemple de la lune, c'est l'apparition de quelque chose qui n'est pas encore défini, donc c'est ce qui est relatif à l'essence. Alors la différence qui existe entre le chiffre 7 et le chiffre 10, c'est exactement la différence qui existe entre l'essence de l'âme et l'âme, les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc c'est un sujet qui revient encore, et le rabbi il revient avec force sur ce sujet-là, puisque tout dépend finalement de l'association de ces deux chiffres, tout dépend de la révélation de l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc l'association, l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Pour introduire ce sujet, on pourrait raconter une histoire qui est très connue, une histoire du Baal Shem Tov, mais qui est appropriée ici dans notre cas. Alors on se souvient qu'un jour, c'était pendant les jours redoutables, pendant les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, et plus précisément au moment de la prière de la Nehila, juste avant la prière d'Arvit qui vient clore le jour de Yom Kippour, le Baal Shem Tov était chazan, il était à son pupitre, donc il était en train de prier avec une intense ferveur. Il priait vraiment de manière avec beaucoup de force, avec beaucoup de sentiments. Et tous dans la synagogue, quand ils ont vu le Baal Shem Tov prier avec cette ferveur, avec cette intensité, tous se mirent à pleurer, tous se mirent à sangloter, parce que tout le monde a compris que le Baal Shem Tov, il était en train de prier dans le ciel pour sauver une communauté juive qui était en danger. Et il y mettait tout son cœur, toute son âme. Et cela à tel point que même tous les fidèles qui étaient présents, même l'assemblée de ces chassidim, ils ont été touchés par le Baal Shem Tov, par la prière du Baal Shem Tov, et tout le monde s'est mis à prier comme ça, avec cette grande ferveur et dans cette grande kavana, une grande kavana. Et au moment donc de la prière de la Nehila, tout à coup, il y avait un villageois qui était là, un simple villageois, et qui se contentait d'être là, comme ça c'est écrit, c'est le Rabbi Rayatz qui rapporte cette histoire. Il dit qu'il était ignorant, c'était pas quelqu'un qui était érudit, c'était quelqu'un malgré tout qui priait avec tout son être, à tel point que, au lieu de, comme il savait pas les mots de la prière, il s'est mis à hurler le cri du coq, cocorico, comme ça, avec une grande force, et en disant ensuite, éternel et pitié. Alors tout le monde a été surpris par le cri du coq de ce villageois. Il y en a certains qui lui ont demandé de se taire. Et le bedeau qui était là, le chamash, quand il a vu ça, il lui a demandé de rester à sa place, de se calmer, d'arrêter, de rien dire. Alors la prière s'est poursuivie, la prière d'Arvit, pendant que le Baal Shem Tov, il n'avait même pas terminé la prière de la Nehila. Donc vous pourrez rappeler que la Nehila, c'est la prière vraiment qui est très importante, puisque elle, c'est la cinquième prière de Kippour, et puis c'est la prière qui correspond à la révélation de l'essence de l'âme, puisque pendant cette prière, Dieu y révèle l'essence de l'âme juive dans chacun de ses fidèles. C'est pour ça que le mot Nehila, il est apparenté au mot Naoul, qui signifie verrou. Pourquoi ? Parce que Dieu, il verrouille les portes de la synagogue et il s'enferme avec ses enfants, avec l'assemblée d'Israël, pour un entretien privé. Cette prière de la Nehila, elle revêt un caractère d'entretien privé. On pourrait la comparer même au moment où l'âme, elle se tient devant Dieu avant de descendre dans le corps et qu'elle promet à Dieu d'être un tzaddik. Et à ce moment-là, Dieu, on dit que Mashbihim, on fait jurer à l'âme d'être un tzaddik. Mais Mashbihim, on peut aussi lire le mot Mashbihim, on la rassasie de force. C'est-à-dire que pendant que l'homme, il fait une promesse à Dieu, au moment où il fait une promesse à Dieu, l'âme, en même temps, il reçoit les forces nécessaires pour accomplir cette mission, pour accomplir cette promesse. Alors, en ce sens-là, on peut comparer la prière de la Nehila à ce moment-là précieux pendant lequel l'âme elle s'entretient avec Dieu et promet à Dieu d'être un tzaddik et elle reçoit toutes les forces nécessaires pour cela avant de descendre dans le corps. Donc au moment de cette prière, quand le Baal Shem Tov il a poursuivi sa prière et puis quand il a terminé, alors que tout le monde avait terminé la prière d'Arvit, quand il a fini la prière d'Arvit, alors tout le monde a vu un visage rayonnant, il était rayonnant de joie. Et il a expliqué à ce moment-là que pendant la prière, il essayait d'intercéder en faveur de l'Assemblée d'Israël et comme il n'y avait rien, qu'il n'arrivait pas à briser les portes du ciel. Et quand ce villageois-là, il a poussé ce cri-là de Cocorico, alors il a brisé les portes du ciel et il a donné une grande joie dans tous les mondes supérieurs et à Dieu lui-même, à tel point que la Xéra a été annulée. Alors cette histoire-là, elle s'accorde parfaitement au sujet du Dvar Malchut du Rabbi ici, puisque le Rabbi, il va nous parler justement de la date d'un Shabbat qui tombe le 10 Tammuz et qui précède même le Shabbat du 17 Tammuz, puisque le Shabbat suivant, ce sera le Shabbat du 17 Tammuz. Alors le jour du 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne, c'est un jour vraiment qui possède un caractère négatif, puisque le jour du jeûne du 17 Tammuz, il est lié avec la destruction du Temple, donc c'est quelque chose de très négatif. Malgré tout, le Rabbi vient nous dire que dans tout un jeûne en lui-même, il possède, c'est un moment, c'est un etratson, c'est un moment où se dévoile la volonté de Dieu. C'est-à-dire que derrière le jeûne, derrière cet aspect négatif, se cache une très grande lumière. Et c'est la même chose pour la date du 17 Tammuz, puisque c'est aussi ce jour-là que Moshe il a brisé les tables, les premières tables. Alors, quel est le bien caché dans le fait que Moshe il a brisé les tables ? C'est le fait qu'il allait recevoir les secondes tables qui possédaient elles-mêmes ce que les premières ne possédaient pas, puisqu'il y a toute la Torah orale, la Torah Shebealpé, qui a été donnée au moment des secondes tables. Alors là, on voit à travers cet exemple-là que le fait que Moshe il brise les tables, ça, c'est, faut pas le voir dans un aspect superficiel, mais au contraire dans un aspect profond, de comprendre que ça cache quelque chose de très positif. De la même façon, le jour du jeûne du 17 Tammuz, il cache aussi quelque chose de très positif, puisque le Rabbi, il a longuement expliqué, et quand on approche de la période du mois de Av, et dans le mois de Av, il y a le jour de Tisha B'Av, et quand on parle de la destruction du temple le jour de Tisha B'Av, on doit comprendre que la destruction, c'est pas une fin en soi, mais au contraire, c'est le début d'une nouvelle construction. Dieu, il a détruit le second temple pour construire le troisième temple. Donc de la même façon, quand Moshe, il a détruit les tables, les premières tables, c'était dans le but d'une révélation encore plus grande. Donc on voit qu'à travers quelque chose de négatif, on doit toujours avoir les yeux ouverts sur la profondeur des choses. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de comprendre ce que le bien qui se cache dans chaque chose? Évidemment, c'est la Torah profonde. Et alors la Torah profonde, d'une certaine manière, elle correspond aussi au chiffre 10, alors que la Torah révélée, elle correspond au chiffre 7. Donc, comme on a dit, les jours de la semaine, c'est au nombre de 7, ils correspondent au cycle naturel des choses, à la course du soleil. Et le chiffre 10, il correspond à l'apparition de la lune dans le ciel, au jour de Rosh Chodesh, au Chidush, donc à ce qui est au-delà du monde. L'homme, il a la possibilité par le fait qu'il reçoit, il peut étudier la Torah, qui peut se lier son âme à l'esprit divin en étudiant la Torah. Alors, c'est, encore une fois, c'est aussi ça, la différence qui existe entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Dieu, il a créé le monde en 7 jours. Les 7 jours, ils correspondent aux 7 midot, Reset, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Alors que le chiffre 10, il possède en plus les 3 forces de l'intellect, Chochma, Bina, Da'at. La Torah elle-même elle correspond à Chochma, l'attribut de Chochma du monde d'Atzilut. Donc l'homme, quand il a reçu la Torah, on lui a donné la possibilité de dévoiler dans ce monde une lumière qui est au-delà du monde. C'est la signification du chiffre 10. Le chiffre 10, il vient expliquer que l'homme, il a la possibilité de dévoiler dans ce monde une lumière supérieure, c'est-à-dire de s'associer avec Dieu vraiment dans la création du monde, d'apporter à ce monde quelque chose qui va finir par devenir une demeure pour l'essence divine. Donc ça, c'est le chiffre 10, c'est la signification du chiffre 10. Alors évidemment, on peut établir cette comparaison par l'exemple de l'essence de l'âme, dire que l'essence de l'âme juive correspond au chiffre 10, alors que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc c'est quelque chose de naturel, ça correspond au chiffre 7. On peut parler de la profondeur de la Torah, l'essence de la Torah, Pnimiut HaTorah, la Chassidut, ça correspond au chiffre 10, alors que la partie révélée de la Torah, ça correspond au chiffre 7, puisque c'est d'une certaine manière, c'est malgré tout une révélation qui est limitée, puisque on apprend évidemment par l'étude de la partie révélée de la Torah, à faire de ce monde une demeure pour Dieu, mais la majorité des commandements, elle est accomplie au moyen d'objets matériels, donc on reste malgré tout dans les limites d'un monde matériel, alors que le chiffre 10, il représente ce qui est au-delà du monde, il représente l'âme même, autant le chiffre 7, les 7 jours de la création, ça correspond à la perfection du monde tel qu'il a été créé par Dieu, autant le chiffre 10, c'est relatif à la perfection de l'âme, les 10 forces de l'âme, et même encore plus élevé que les 10 forces de l'âme, de l'essence de l'âme. On avait vu déjà cette comparaison dans la parashat Shlach, puisqu'on avait dit que les explorateurs de Moshe, ils étaient au nombre de 12, alors que les explorateurs de Yeshua, ils étaient au nombre de 2. Et on avait expliqué que les explorateurs de Moshe au nombre de 12, le chiffre 12, il vient exprimer la Itralkut, la division, le partage. Et alors que les explorateurs de Yeshua, ils correspondent à la Ardout, à l'unité. Alors curieusement, Moshe, qui est comparé habituellement au soleil, et Yeshua, qui est comparé à la lune, ici, c'est le contraire qui se produit. Les explorateurs de Moshe, ils sont liés avec les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, alors que les explorateurs de Yeshua, ils représentent la partie de l'âme qui s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme. Là-dessus, on avait répondu sous la forme d'un chidouche, on avait expliqué que bien que la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil, ça, c'est selon l'enchaînement des mondes, mais dans les temps futurs, au moment de la délivrance, la lune, elle va s'élever au-dessus. La séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et même, on voit, c'est dans le pasouk, dans le verset du Shir HaShirim, « Echetraï la terre de Bala ». C'est-à-dire que la Malchut, qui est appelée pauvre, pas pourquoi elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas de lumière qui lui est propre, dans les temps futurs, elle va révéler son véritable niveau. Elle va révéler ce niveau-là et elle va dispenser, en s'élevant au-dessus de toutes les autres séphirotes, une lumière dans l'enchaînement des mondes au moment de la délivrance. Alors, à travers cet exemple-là de Moshe et de Yeshua, on comprend que dans la parashat Shlach, on a comparé Yeshua donc à la lune, mais justement à la lune au moment de la délivrance qui s'élève au-dessus de toutes les autres séphirotes, donc ça correspond à l'essence de l'âme, alors que les explorateurs de Moshe, ils correspondent à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc les 10 forces de l'âme, c'est comparé aux 12 explorateurs, les 10 forces de l'âme, chaque membre du corps, il reçoit une force particulière, mais quand on parle d'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10, alors on doit comprendre qu'on doit révéler la partie la plus supérieure, l'essence même, le lien de l'âme avec Dieu, puisque l'essence de l'âme elle est enracinée dans l'essence divine, que cette force-là, elle se révèle vraiment dans les forces de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est ça l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Et c'est le sujet même du Dvar Malchut de la parashat Roukat. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que quand on voit le monde dans son aspect superficiel, alors on peut comprendre que le jour du 17 Tammuz, il est lié avec la destruction des premières tables, il est lié avec le jeûne du 17 Tammuz, donc qui est relatif à quand ils ont commencé à assiéger la ville de Yerushalayim. Donc tout cela, ce sont des choses qui nous apparaissent de manière négative, mais quand on associe le chiffre 7 avec le chiffre 10, quand on associe la partie profonde de la Torah avec la partie révélée de la Torah, alors on a une toute autre vision de la réalité. Et c'est un travail qu'un juif il doit faire tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, il doit associer ce qui est au-delà du monde avec le monde lui-même. Il doit attirer une lumière qui est au-delà du monde dans ce monde même. Mais le rabbi souligne ici que le jour du Shabbat qui vient donc, c'est le septième jour, le Shabbat qui tombe le dixième jour du mois. Donc il met l'accent ce Shabbat-là sur ce travail en particulier et il nous donne une force particulière pour accomplir ce travail. Et c'est pour ça qu'il précède le jour du 17 Tammuz parce qu'il nous permet de recevoir une force particulière pour avoir une vision particulière par la suite, pour savoir voir et lire les événements qui sont devant nous, en l'occurrence le jeûne du 17 Tammuz qui apparemment revêt quelque chose de négatif, mais il nous donne la force justement de pénétrer dans la profondeur des choses pour en comprendre le sens véritable. Donc ça, évidemment, l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10, il s'exprime vraiment de manière particulière par le lien qui unit le rabbi avec ses chassidim, puisqu'on pourrait dire que la lumière du rabbi, elle est au-delà du monde, alors que le chassid, il vit lui-même dans ce monde matériel, et il essaie de sortir de ce monde matériel, justement, s'il parvient à avoir une perception du divin, grâce à l'enseignement qu'il va recevoir du rabbi. Donc, c'est l'association du chiffre 7 et du chiffre 10, si on assemble les deux, ces deux chiffres, on obtient le chiffre 17, et le rabbi explique que c'est donc la valeur numérique du mot Tov, un bien. Le fait de s'attacher à l'enseignement du rabbi, à la partie profonde de la Torah, de l'associer à notre partie révélée de la Torah, d'associer à notre regard à la vision du rabbi, alors on parvient au bien véritable. Tov, la valeur numérique du chiffre 17. Donc plusieurs choses nous sont demandées ici. Le rabbi nous dit donc justement on doit posséder cette vision, on doit acquérir cette vision, on doit s'attacher à la profondeur, comme le Tzemar Tzedek l'a déclaré, la profondeur attire la profondeur. Le fait de s'investir dans la partie profonde de la Torah, ça va attirer la profondeur, ça va attirer qu'on aura un regard plus profond. De la même façon, comment on parvient à dévoiler l'essence divine dans le monde, c'est quand on parvient à dévoiler l'essence divine, de la profondeur de l'essence de notre âme. Et en agissant en ce sens-là, alors on suscite le désir divin de provoquer la Géoula. On pourrait donner l'exemple au jour de Pourim, quand on parle que le Achashverosh, il n'arrivait pas à trouver le sommeil, et la Chassidut explique que le Achashverosh est comparé au roi des rois, au saint béni soit-il, et que Dieu il n'arrive pas à trouver le sommeil. Ça signifie quoi? C'est précisément quand le peuple juif il fait don de lui-même, quand il fait Messirou Nefesh, quand il fait don de sa propre existence, alors il attire le regard divin. Il empêche Dieu de dormir, si on peut dire. Donc, en révélant la partie profonde de notre âme, on révèle la lumière la plus profonde qui sera dévoilée au moment de la Géoula. Alors, pour cela, le rabbi donne plusieurs exemples. Il nous dit qu'on doit dévoiler le divin dans ce monde. Donc ça, c'est comme on l'a dit, c'est le chiffre 7. Et ensuite, on ne doit pas se contenter de ça, mais on doit l'echadesh, on doit trouver des chidushim, et on doit dévoiler le divin qui est au-delà de ce monde. Donc ça, c'est lié au mois, à la lune, au chiffre 10. On doit aussi voir ça au début même de la prière, puisqu'au début de la prière, quand on dit modé ani, quand on commence dès notre réveil, qu'est-ce qu'on dit en premier? On dit modé ani shehechzartabi nishmati, Dieu qui m'a rendu mon âme. Donc ça, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Donc ça, c'est relatif au chiffre 7. Et ensuite, on finit cette prière en disant Rabba emunatecha. Grande est ta emuna en nous. Rabba, ce mot-là, le rabbi explique qu'il s'apparente au mot rav, ça veut dire beaucoup, l'abondance, ce qui est au-delà de ce monde-là. Donc au départ, on, dans notre prière, on exprime la nature des choses et ensuite on exprime ce qui est au-delà des choses. De la même façon, quand on fait toutes les brachot dès notre lever, Pokeach Ivrim qui rend la vue aux aveugles, Matira Surim, toutes les brachot qu'on fait, ce sont des choses qui sont liées avec la nature des choses, puisque ça se produit tous les jours de manière naturelle, de la même façon. Mais ensuite, on finit par les brachot en disant noten la Torah. Et ça, donc, c'est la Torah, elle est au-delà du monde. Donc, toujours, c'est le, on commence par le chiffre 7 et on finit par le chiffre 10. On commence par ce qui est lié au monde et on finit par ce qui est au-delà du monde. De la même façon, dans la Torah et le mitzvot, il y a plusieurs, il y a ces différences-là qui sont mis en évidence. C'est ça, l'enseignement qu'un juif, il doit recevoir. Il doit s'occuper de la partie révélée de la Torah, d'étudier la Gemara, le Shulchan Aruch, la Halakha, mais aussi la pnimiut à Torah. Mais même dans les actions, il doit accomplir une mitzvah elle-même, le corps de la mitzvah, dans son aspect matériel, puisque une mitzvah, on l'accomplit au moyen d'un objet matériel, mais il y a aussi l'âme de la mitzvah, neshama à mitzvah, l'âme de la mitzvah. On pourrait même parler de l'essence de l'âme de la mitzvah. Et là, le rabbi donne un exemple, il dit qu'il y a des mitzvot qu'on n'est pas obligé d'avoir une kavana, une intention, au moment où on les accomplit, mais même ces mitzvot-là, on doit s'efforcer d'avoir une kavana. Alors, en ce qui concerne la tzedaka, le rabbi dit que c'est bien de donner la tzedaka avec un visage bienveillant, bien que l'essentiel c'est de donner quelque chose à un pauvre parce qu'il a besoin pour subsister, de recevoir un peu d'argent, pour recevoir quelque chose qui le fera vivre, bien que ce soit là l'essentiel, malgré tout c'est toujours mieux de donner la tzedaka avec un visage bienveillant. Alors le rabbi, c'est intéressant aussi, il fait la différence et il vient nous dire qu'il y a la mitzvah de la tzedaka par la marshava aussi, par la pensée, c'est le fait de penser bien d'un juif, par le dibour, c'est le fait de donner un bon conseil à son frère juif, et par l'action, c'est le fait de donner vraiment la tzedaka de manière concrète. Ensuite, comme exemple, le rabbi, il va nous expliquer que l'union qui existe entre le chiffre 7 et le chiffre 10, il s'associe aussi à un jour particulier, puisque, comme on a dit, ce Shabbat-là, c'est le 7e jour du 10 du mois de Tammuz, qui précède le 17 Tammuz, donc le jour où Moshe a brisé les tables. Là encore, les tables, à partir qui brisées comme ça, ça évoque aussi le cœur brisé, puisque un juif qui brise son cœur, qui est brisé par le fait que de l'absence du temple et de l'absence du Machiar, il va dévoiler la plus profonde de son âme. Ça, c'est l'enseignement du discours chassidique de la Tate Tzavé. Et ça aussi, c'est ici, quand on parle de que Moshe brise les tables, on doit comprendre aussi qu'il y a un exemple, une référence au discours du rabbi, au fait d'avoir qu'à titre les mahors, d'être toujours brisé par l'exil, de dévoiler le désir le plus profond qui est au-dedans de nous-mêmes, pour dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, afin qu'elle se révèle dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Maintenant, entre ces deux dates, entre le 17 Tammuz et puis le Shabbat qui vient du 10 Tammuz, vient le jour de Yud Bet et du Yud Gimel Tammuz, la délivrance du Rabbi Rayatz. Alors là aussi, on peut comprendre que ce Shabbat qui vient, il a une importance particulière, puisqu'il est lié aussi avec le jour de la délivrance du Rabbi Rayatz, et il précède même le jour de la reconstruction du temple. Donc on voit que le rôle du Rabbi ici, la mission du Rabbi, c'est de reconstruire le temple. D'abord le temple qui est en chaque juif, et aussi de participer à la reconstruction du temple en impliquant chaque juif de manière concrète. Donc ici on pourrait retourner maintenant à l'histoire avec le Baal Shem Tov, et on comprend ici que cette histoire-là du villageois, du simple villageois qui a poussé le cri du coq, en fait ce simple villageois, le mot simple, il a rien de simple en définitive, puisque le rabbi a expliqué que chaque simple juif, l'essence de l'âme de chaque simple juif, elle est enracinée dans l'essence divine, et ça tout le peuple juif, il est lié de la même façon au Saint béni soit-il, chacun possède l'essence de l'âme juive, et donc on ne peut pas faire de différence entre tzaddik, l'autre tzaddik, benoni, l'autre benoni. Chaque juif, il possède ce niveau-là. Donc le rabbi, il a insisté sur ce terme-là, le mot de pshitut. La pshitut, la simplicité d'un juif, elle évoque quelque chose de très grand, puisqu'elle évoque le plus haut niveau de l'âme. Donc ce simple juif-là, qui était dans la synagogue du Baal Shem Tov, en réalité, il représente l'essence de l'âme. Il représente l'essence de l'âme parce que quand il pousse un cri, on doit comprendre qu'un cri, c'est au-delà des mots. Le cri va exprimer quelque chose qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Le cri, il est abstrait. Le cri, il a une certaine abstraction en comparaison aux mots. Donc, il est quelque part comparable à la qualité de l'essence, puisque l'essence de l'âme juive, elle est divine, elle n'entre dans aucune définition, dans aucune limite, on ne peut pas la limiter. C'est comme quand on essaie de faire la différence entre le Shem Havayé et le mot Anochi. Anochi, ça désigne l'essence divine, pourtant ce n'est pas un nom saint, et c'est un nom qui est profane, mais justement, c'est Anochi, il désigne ce qui est au-delà de chaque détail de ce monde, au-delà de chaque forme. Le nom divin Havayé représente la qualité de chesed de Dieu. Mais le mot Anochi représente ce qui est même au-delà du chesed, ce qui est indéfinissable, le caractère divin, une qualité divine, ce qui n'appartient qu'à Dieu. Et de la même façon, le cri du coq cocorico, il découle de l'essence divine. C'est un cri qui vient de la partie la plus profonde de l'âme, et ce cri-là, il ne peut pas s'habiller dans ses mots, donc on doit comprendre que, comme il ne peut pas s'habiller dans ses mots, c'est parce qu'il est au-delà des mots, il est au-delà de l'intellect. Et quand il a poussé ce cri, il y en a même certains qui ont voulu le mettre dehors, parce que justement, c'est inhabituel. C'est l'attitude de donner sa vie pour Dieu, d'exprimer ce qui est au plus profond de nous-mêmes, c'est quelque chose de très inhabituel. Le rabbi lui-même est l'exemple vivant de cette expression. C'est lui qui donne l'exemple de quelle manière on doit crier. Parce qu'évidemment, le cri ne se limite pas à un son qui émane de la bouche. On doit crier au moyen de nos pensées. On doit crier au moyen de nos paroles. On doit crier au moyen de nos actes et demander ad matai. Ce cri, il doit demander jusqu'à quand. Ça doit être, et c'est ça l'expression du lien le plus élevé, le lien de l'âme. L'âme, l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. C'est ce cri que le villageois a poussé. Et donc le Baal Shem Tov qui priait pour l'assemblée d'Israël, donc ce moment-là, et on peut le comparer au moment du 12 Tammuz et du 13 Tammuz, quand le Rabbi Rayatz, il a été libéré, et de la même façon, à la fin de la prière de la Nehila, le Baal Shem Tov, il a été libéré par le fait qu'un juif, un simple juif, il a révélé l'essence de son âme. Donc voilà, c'est ça le sujet du Don Al-Khout. Révéler le chiffre 10 dans le chiffre 7, c'est ça, pousser un cri, pousser un cocorico, et en plus, cocorico, c'est l'emblème de la France. On pourrait très bien voir ici un rapport avec tous les enseignements que le Rabbi a donné sur la France, sur Tsarfat, la valeur numérique de 770. Donc on doit vraiment s'attacher à dévoiler la partie la plus profonde de notre être, et ça on y parvient par notre attachement au Rabbi, et de parvenir à pousser un cocorico qui provoquera Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, la délivrance. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.